Débutons le septième chapitre, le chant de l'introïte. Les précédents articles ont sommairement évoqué le chant de l'introïte par la Schola Scandorum, c'est-à-dire la chorale. Alors que le pontife romain se rend en procession à l'autel pour la célébration des mystères sacrés. Assurément, ici, il y a conjonction dans le temps entre deux fonctions liturgiques complémentaires. Celle d'une chorale qui exprime la prière de l'Église en corrélation avec le thème de la festivité, et celle d'un célébrant qui s'apprête à accomplir son ministère sacerdotal. Mais il ne semble pas, d'après les dispositions de l'Ordo Romanus Primus, que le pontife romain s'associe par la prière à ce que la Schola chante au même moment. Les données que fournit donc ici l'antique directive romaine représentent un stade dans l'évolution de l'institution. L'intérêt est maintenant de déceler, au cours de la période antérieure au 8e siècle, quelles ont été les phases de son développement. En gardant en mémoire que celui-ci est intimement lié à l'évolution générale du chant sacré romain. Il est indéniable que la fonction liturgique vocale n'a pu se trouver naturellement engendrée que simultanément au déploiement des fastes rituels qui ont suivi la pacification religieuse de 313, date de l'édit de Constantin et donc à la mise à disposition en faveur de l'Église chrétienne de lieux de culte par le pouvoir impérial. On ne saurait suivre Jungmann sur ce point quand il affirme que la procession d'entrée eût été trop fastidieuse si elle s'était déroulée à travers l'église dans le plus profond silence. Le chant a toujours constitué l'expression humaine la plus haute de la prière et le langage spontané d'une foi religieuse puissamment enracinée. L'église ne pouvait que s'en servir pour solenniser les moments sacrés et mettre l'accent sur les textes scripturaires qui en dépendaient. La procession d'entrée était l'un de ces moments. La solenniser n'était d'ailleurs pas une spécificité de la ville éternelle, ainsi en Orient. Mais observons plutôt la pratique des églises d'Occident, dont chacune a conservé sa personnalité propre. À Milan, le chant s'appelle Ingressa. C'est un texte scripturaire sans ajout de versets psalmiques, de doxologie et de refrain. La liturgie hispanique comporte une oraison chantée avant les lectures. Oratio ad prelegendum, à laquelle on donnera plus tard le nom d'officium. Ce terme fera d'ailleurs carrière au Moyen Âge. C'est ainsi qu'il désignera le chant d'entrée de la liturgie dominicaine. À Rome, l'introïte est un psaume dont les versets sont chantés recto tono. L'origine de la référence romaine à ce texte sacré procède sans aucun doute d'un choix volontaire. Au cours des trois premiers siècles, en effet, l'Église de Rome s'est trouvée durement confrontée à la gnose et à diverses hérésies, d'où sa volonté affirmée et constante de s'en remettre exclusivement à des textes vétérotestamentaires inspiré par l'Esprit Saint et traduisant l'intégralité des mystères du salut. Par contre, le parallèle s'établit aisément entre l'institution romaine et les divers chants d'entrée des églises d'Occident. Dans tous les cas relevés, le texte musical n'appelle pas la nécessité d'un refrain. Tous ces chants possèdent donc la même racine. C'est précisément l'apparition de ce refrain qui constitue à Rome la naissance d'une seconde étape évolutive. D'après Jungmann, la répétition d'un verset psalmique de préférence à d'autres semble devoir son origine à une nécessité musicale, celle de permettre une intonation plus assurée. Ainsi serait née l'antienne. L'argument ne résiste pas à un examen sérieux. M. Philippe Bernard pressent davantage ce qui s'est réellement passé. Le fragment de verset qu'on choisit pour refrain est un verset choisi en fonction de son sens. Lire l'ouvrage de M. Philippe Bernard, du chant romain au chant grégorien, édition du Cerf 1996, chapitre 7, page 239. La règle de l'Église qui se met ainsi en place et qui gouverne la totalité du chant sacré romain a donc consisté à privilégier le verset qui à lui seul résumait l'esprit de l'ensemble du texte psalmique pour imposer sa répétition dans le chant. Et cette règle s'est tout naturellement appliquée au chant d'entrée parce qu'il s'agissait d'un psaume. À partir de ce stade, trois lignes directrices d'évolution se dessinent pour achever de préciser le visage de l'institution du chant d'entrée. En premier lieu, l'antienne reçoit une véritable primauté sur l'ensemble du texte de l'introïte, au point d'effacer progressivement la présence du psaume jusqu'à sa réduction à un seul verset et à la doxologie. Elle y parvient parce que désormais, elle personnalise à la fois l'entrée processionnelle et le sens du mystère que célèbre le jour liturgique. Autre étape due au développement interne du temporal et du sanctoral, la diversification opérée dans le choix des antiennes par l'apport d'autres textes scripturaires auxquels s'ajoute un verset de psaume et la doxologie. La règle primitive de la répétition de l'ancienne est maintenue. Enfin, la troisième ligne directrice d'évolution aboutit à la transformation de l'introïte en prière du prêtre célébrant et à son transfert direct à l'autel. Les dispositions de l'Ordo Romanus Primus évoquées précédemment sont donc dépassées. Dès la fin du 8e siècle, en effet, vers 790 même, peut-on préciser, l'Ordo Romanus numéro 15, autrement dénommé Capitulare Ecclesiastici Dom Ordinis, prescrit à tout prêtre célébrant, que ce soit dans les monastères, dans les cités ou les villages, de réciter l'antienne, le psaume et la doxologie, puis de répéter le texte de l'antienne. Ces dispositions prévues pour la liturgie presbytérale, donc celle des prêtres, entreront ensuite dans le rituel pontifical, celle des pontifes, avant de s'introduire au XIIIe siècle dans les liturgies dominicaines et cartusiennes.